Vous écoutez, on lit pour vous.
Un siècle d'engagement et de conviction. Un texte d'Hélène David, paru le 12 avril 2024 dans La Presse. Guy Rocher célèbre 100 ans le 20 avril 2024. J'ai eu le privilège d'échanger avec lui sur plusieurs sujets auxquels il réfléchit depuis des décennies, particulièrement l'éducation et la langue française. Malgré son âge honorable, l'illustre sociologue continue non seulement de scruter les enjeux qui façonnent et façonneront le Québec, mais il s'implique encore, n'hésitant pas à écrire, à témoigner et à débattre. Guy Rocher est professeur émérite de l'Université de Montréal. Il a été un acteur important de changements majeurs au Québec. D'abord comme membre de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, mieux connue sous le nom de Commission Parent 1961-1966, puis grâce à son rôle central lors de la rédaction, en 1977, de la politique linguistique du Québec qui deviendra la loi 101, aux côtés de son confrère Fernand Dumont et sous la responsabilité du ministre Camille Lorrain. Guy Rocher le précise d'emblée. Malgré l'importance de ses mandats gouvernementaux, ce sont les activités de transmission, d'enseignement et d'écriture qu'il a toujours privilégiées et placées au centre de sa carrière. La bataille d'une vie. Les positions de Guy Rocher sur la gratuité et l'égalité des chances en éducation, du primaire jusqu'à l'université, sont inébranlables. Il dénonce depuis longtemps ce qu'il est convenu d'appeler l'école à trois vitesses. L'éducation, c'est la bataille de sa vie. Si j'avais 40 ans, je travaillerais prioritairement pour revenir à l'égalité des chances dans notre système d'éducation qui est inégalitaire en ce moment. C'est une injustice et je trouve cela intolérable, affirme Guy Rocher. Ça serait ma bataille. Il faudrait régler le financement des écoles privées, surtout au niveau secondaire. Il faudrait un système d'éducation publique de la maternelle à l'université, dit-il. Cette discussion, ajoute-t-il, mériterait d'être au cœur des réflexions gouvernementales actuelles en éducation. Guy Rocher a aussi participé à la création du réseau des cégeps et de celui de l'Université du Québec, toujours dans le but de démocratiser l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Ces établissements ont permis à plusieurs régions de faire un pas de géant dans le développement scientifique, social, économique et culturel de leur territoire, estime-t-il. Le sociologue souscrit par ailleurs à l'idée d'une nouvelle commission parent actualisée aux enjeux actuels et futurs. Une commission donne l'occasion à l'ensemble de la société, à l'ensemble du système scolaire, d'entreprendre une réflexion globale. Il me semble qu'après l'évolution que nous avons connue jusqu'à présent, ce serait le moment de repenser notre système d'éducation. Les aspects du financement, des transitions d'un niveau à l'autre, de la formation des enseignants, de la diplomation, des nouvelles clientèles, tout cela dans une perspective sur plusieurs années. À la défense du français. En 1976, Guy Rocher avait accepté de s'absenter de ses fonctions universitaires pour contribuer à la conception et à la rédaction de la politique linguistique du Québec. Près d'un demi-siècle plus tard, en 2018, j'étais présent en commission parlementaire quand il est venu exprimer, sans note et très clairement, son souhait de voir appliquer la loi 101 au collégial. Pendant notre entretien, il m'explique davantage sa réflexion. Le cégep est une institution d'État, comme le réseau primaire et secondaire. La fréquentation y est gratuite. Donc, la loi 101 devrait y être étendue avec le même raisonnement que nous avons appliqué au primaire et au secondaire. C'est la responsabilité de l'État de s'assurer que les établissements d'enseignement qu'il finance correspondent à la politique culturelle et à la politique linguistique du Québec. Je ne suis pas contre l'attrait de l'anglais, mais je ne veux pas que les établissements comme le Cégep le favorisent et l'amplifient. Pour lui, la loi 101, c'est une manière de dire « Écoutez, vous apprendrez l'anglais autrement que par la fréquentation des collèges anglais. » Il y a l'aspect de la langue, mais aussi de la culture française à laquelle les jeunes Québécois et ceux issus de l'immigration doivent être exposés à un âge où c'est important pour eux. Ce qui nous manque actuellement, c'est une perspective culturelle de la langue française. Le parcours de Guy Rocher est celui d'un universitaire engagé qui a mis sa carrière en veilleuse à plusieurs reprises pour se consacrer à la réalisation de mandats qu'il jugeait déterminants pour l'avenir du Québec. Il est très apprécié par un gouvernement, je le sais d'expérience comme ancien haut fonctionnaire et ex-élu, de pouvoir compter sur la présence d'experts qui acceptent de se détourner pendant un certain temps de leur travail universitaire pour se dévouer à une cause à laquelle ils croient. « Ce dont je suis le plus satisfait dans ma vie, m'explique-t-il, c'est de ma carrière universitaire. Je ne me sens pas comme si j'avais 100 ans. Je suis surpris que ça m'arrive. Je n'avais pas prévu ça quand j'étais jeune. » Et il conclut. « Mais avoir 100 ans ne m'empêche pas de me préoccuper du présent et de l'avenir du Québec et de la société autour de moi. » Affable, serein et très alerte, Guy Rocher nous apprend à bien vieillir et à habiter notre vie par passion et conviction. Il donne aussi l'exemple en acceptant le débat, en y participant, en sachant que ses idées ne font pas nécessairement l'unanimité. Je ressens beaucoup de gratitude envers lui pour tout ce qu'il a fait pour le Québec d'hier et de demain. Je ne suis pas la seule à vouloir lui exprimer cette reconnaissance. Guy Rocher est un très grand citoyen. Son apport au développement du Québec et des Québécois est considérable. On ne le reconnaîtra jamais assez. C'était « Un siècle d'engagement et de conviction », un texte d'Hélène David paru le 12 avril 2024 dans La Presse.
Aux États-Unis, émergence massive de milliards de cigales. Un texte d'Annie Labrec, paru le 10 avril 2024 dans Québec Science. Les semaines à venir seront marquées par un phénomène singulier. Des milliards de cigales périodiques sortiront de terre. Zoom sur ce phénomène entomologique. C'est ce qui s'appelle s'épanouir sur le tard. Après avoir passé, selon l'espèce, 13 ou 17 ans sous terre, les larves des cigales périodiques du genre Magicicada font leur émergence. L'année 2024 est toutefois particulière. Deux couvées de cigales, l'une sortant tous les 13 ans et l'autre tous les 17 ans, émergeront simultanément. Ces deux couvées américaines, représentant au total 7 espèces de cigales périodiques, émergeront dans plus d'une quinzaine d'États. Une couvée s'étendra sur un vaste territoire géographique, tandis que l'autre se concentrera principalement dans l'État de l'Illinois, explique André Philippe Drapeau-Picard, préposé au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. Que sont les couvées? Les cigales périodiques sont rassemblées en couvées selon l'année de leur émergence. En 2024, il y aura ainsi la couvée 19 qui émerge tous les 13 ans et la couvée 13 qui émerge tous les 17 ans. C'est la première fois depuis 1803 que ces deux couvées émergent simultanément. Au stade larvaire, la cigale creuse la terre et se nourrit en suçant la sève des racines des arbres. Après de nombreuses années, l'insecte est prêt à remonter vers la surface. Cette sortie se fait habituellement pendant la nuit. L'insecte escalade ensuite les troncs et les branches des arbres pour muer et libérer son corps de son ancienne peau. Une fois la mue complétée, la cigale se dirige vers la cime des arbres pour trouver un partenaire et entamer le cycle de l'accouplement et de la reproduction. Les cigales sont bruyantes. Quelques jours après leur émergence, les mâles commencent à chanter pour attirer les femelles. Les zones boisées sont particulièrement prisées par les cigales, mentionne André-Philippe Drapeau-Picard. La sortie de ces milliards de cigales ne passe pas inaperçue. Leur chant atteint un niveau sonore impressionnant, comparable au bruit des avions. Ce sont les timbales, des organes ressemblant à des tambours situés sur les côtés de l'abdomen qui produisent ce son strident. Des cigales exceptionnelles. John Cooley, professeur adjoint d'écologie et de biologie évolutive à l'Université du Connecticut, a toujours été fasciné par les cigales. Il a grandi dans le Midwest des États-Unis, où il en observait beaucoup pendant l'été. Son intérêt pour les cigales périodiques s'est cependant éveillé au contact d'un de ses professeurs d'université qui en était passionné. Charles Darwin a écrit que les exceptions sont particulièrement intéressantes. Les cigales périodiques en sont un exemple. Sur les quelques 5000 espèces de cigales sur la planète, moins de 10 présentent un comportement semblable. Rester sous terre pendant de nombreuses années. C'est une caractéristique très inhabituelle, raconte le spécialiste des cigales périodiques. Les espèces de cigales présentes au Québec émergent, elles, tous les 2 à 3 ans. Les cigales vivent une très grande partie de leur vie à l'abri des regards humains et de leurs prédateurs tels que les oiseaux et les écureuils. Que font-elles pendant tout ce temps? Elles se nourrissent de sève et grandissent simplement à un rythme très lent, fait remarquer John Cooley. Sous terre, ces insectes restent longtemps à l'état larvaire. Contrairement à beaucoup d'insectes qui passent d'une étape à l'autre de leur cycle de vie en fonction de leur taille, chez ces cigales, le passage à l'étape adulte est déterminé par le nombre d'années, explique M. Drapeau-Picard. Les spécialistes ignorent pourquoi les cigales sortent toutes en même temps. Cela demeure un mystère, souligne André-Philippe Drapeau-Picard. L'une des hypothèses avancées est que cela réduirait les risques de prédation. Le risque est moins grand de se faire dévorer par un prédateur lorsqu'on est nombreux. C'est un avantage pour l'ensemble de la population de cigales, ajoute-t-il. Qu'apprend-on des cigales? Pour en apprendre davantage sur leur vie, l'observation sous terre ne semble pas une avenue. On le fait, mais le problème est de trouver ces cigales. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On peut creuser longtemps sans rien trouver, souligne John Cooley. Les émergences massives offrent donc une occasion propice aux scientifiques pour mieux les étudier. Récemment, des travaux se sont penchés sur leur système de communication. Les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, les cigales effectuent des duos. Il n'y a pas que les mâles qui chantent. Les femelles aussi émettent des sons, rapporte John Cooley. Les femelles pondent leurs œufs dans les interstices des arbres. Après un développement d'environ 6 à 10 semaines, les œufs éclosent, libérant les larves qui tombent au sol. Là, elles s'enfoncent dans le sol pour entamer un nouveau cycle de vie qui s'étendra sur 13 à 17 ans. Les changements climatiques ne devraient pas pousser les cigales périodiques de sitôt en sol québécois, indique John Cooley. Pendant la période glaciaire de la côte est des États-Unis, l'aire de répartition des cigales périodiques a été modifiée au fil du temps, sur une période de 10 000 ans, indique l'expert de l'Université du Connecticut. C'était, aux États-Unis, émergence massive de milliards de cigales. Un texte d'Annie Labrecque paru le 10 avril 2024 dans Québec Science.
Pourquoi le Québec ne réussit pas à se défaire de sa dépendance à l'automobile? Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir. Une sage remarque rappelle qu'on ne peut se plaindre des effets quand on consent pleinement aux causes. Et pour autant que l'urbanisme, comme l'architecture, montre comment une société se rêve et se conçoit, que disent de nous nos boulevards tachereaux, nos ponts épuisés par l'achalandage et nos autoroutes surchargées de voitures de plus en plus obèses? Les économistes ont développé dans les années 1980 la notion de dépendance de sentier, aussi dite du chemin emprunté, pour expliquer les difficultés à s'extirper d'un modèle hérité par un effet de verrouillage, même quand d'autres voies existent. Le paradigme de la mobilité, centré sur l'automobile individuelle, triomphant depuis des décennies, offre un cas type de dépendance de sentier. Les solutions de transport actif, permettant un autre usage des espaces publics congestionnés par de plus en plus de véhicules, électriques ou pas, ne se développent pas beaucoup et s'ils le font, c'est trop lentement au Québec. Le transport en commun n'a cessé de régresser en Amérique du Nord, y compris à Montréal, depuis un siècle, au profit de la place croissante de l'automobile avec la complicité des pouvoirs publics. Le réseau de trains des États-Unis, Amtrak, a transporté 23 millions de passagers en 2022 par rapport à 1,2 milliard de personnes en 1920, quand les trains du continent étaient les plus performants du monde. Le premier Shinkansen, le train à grande vitesse du Japon, a commencé à circuler il y a 60 ans, en 1964. Il n'existe toujours aucun équivalent dans toutes les Amériques. Le projet de train à grande fréquence entre Québec et Toronto, promis pour 2030, qui y croit, circulera à une vitesse de pointe d'environ 200 km/h, soit la vitesse des bolides sur rail de la première décennie du 20e siècle. On continue les comparaisons historiques. À l'apogée du réseau montréalais de tramways électriques, dans les années 1930, les 55 lignes desservaient des centaines de stations sur 510 km de rail, jusque sur la rive sud. Le dernier tram a été anéanti en 1959 sous la pression de la prétendue modernité du tout à l'auto. Le réseau de métro montréalais, inauguré en 1966, comprend maintenant 4 lignes, étendues sur 71 km, desservant 68 stations. La dernière station ajoutée sur l'île l'a été en 1988, il y a plus de 35 ans. Le métro de Madrid, une ville comparable de 3,3 millions d'habitants, compte 13 lignes et près de 300 stations, totalisant près de 300 km de rails. Il y a toute une réflexion à faire et des changements tangibles à entreprendre pour réduire l'espace occupé par l'automobile, dit David Alfaro Clark, conseiller aux affaires publiques et gouvernementales de l'Ordre des urbanistes du Québec. Il faut élargir les trottoirs, créer plus d'îlots verdis, réduire le nombre de voies de circulation. C'est un énorme chantier parce que l'espace public dont nous héritons a été conçu autour de l'automobile. Il faut quand même offrir des solutions de rechange si on veut que les gens délaissent l'auto. On a un bon réseau de base en transport en commun à Montréal en comparaison à d'autres villes en Amérique du Nord, mais on a manifestement de la difficulté à le développer avec tous les projets qui ne se concrétisent pas. L'argent ne manque pourtant pas pour le transport dans ce pays riche. Seulement, des fortunes se dépensent encore et toujours en faveur des automobiles individuelles. Trajectoire Québec, qui fait la promotion des transports collectifs, a calculé que le transport automobile coûtait 43 milliards de dollars par an aux Québécois. Il faut aussi ajouter 7,6 milliards pour des frais supplémentaires liés à la santé publique, à la sécurité routière, aux frais de justice, etc. Ces sommes astronomiques gonflent sans cesse, près de 70 % en 20 ans, comme le parc automobile enfle d'année en année. La gratuité du système sans péage est une illusion. Les dépenses pour entretenir le motordom, le royaume du char, sont assumées par tous, automobilistes, cyclistes, trottinettistes ou piétons. Chaque famille québécoise de 4 personnes assume près de 7 000 $ annuels en dépenses publiques pour le transport automobile. Les automobilistes en rajoutent évidemment pour entretenir des véhicules de plus en plus coûteux, leur prix moyen chez le concessionnaire dépassant maintenant les 60 000 $. Au total, les familles possédant une voiture consacrent donc environ 20 000 $ au transport, ce qui constitue la deuxième dépense en importance d'un budget familial. À Montréal, les 16,4 milliards du transport privé consentis annuellement par les ménages correspondent à 10 fois le budget annuel de la Société de transport de Montréal. Ce système n'est pas viable à long terme, conclut Trajectoire Québec, qui demande de freiner la croissance du parc automobile, d'instaurer le principe de l'utilisateur-payeur et d'offrir des solutions de rechange aux citoyens pour se déplacer plus rapidement et à moindre coût en utilisant autrement tout l'espace public monopolisé maintenant par l'automobile solo. Le parc automobile croît actuellement plus rapidement que la population du Québec. Le secteur des transports accapare une part de plus en plus grande des dépenses publiques et de celles des ménages, et, dans l'état actuel des choses, la situation ne peut que s'aggraver. C'était pourquoi le Québec ne réussit pas à se défaire de sa dépendance à l'automobile, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir.
Une bête belle à croquer. Un texte de Pierre Gingras paru le 30 mars 2024 dans La Presse. Alors que les radis, les betteraves et les autres légumes racines cachent leur beauté sous terre, elles exhibent fièrement leur coloris. Devançant les tomates, les poivrons, les piments et les aubergines, elles occupent rapidement toute la scène potagère. Difficile d'avoir un légume plus polyvalent au jardin. Un épinard géant. La beauté d'abord. Souvent considéré comme un épinard géant, la bête à carde présente un feuillage lustré, souvent gaufré ou plissé dans divers tons de vert, surtout foncé, mais parfois doté de pourpre. De nombreuses variétés offrent des tiges, les pétioles, aussi appelées cardes, dans des coloris souvent très vifs de jaune, de doré, de blanc, de rouge, de rose ou d'oranger, qui se prolongent dans les nervures des feuilles. Une beauté qui fait des jaloux au potager puisque chaque touffe peut atteindre 30 bons centimètres de hauteur. Plus encore, avec un entretien normal, notre kaléidoscope végétal persistera jusqu'au gel. On comprend pourquoi, en anglais, on parle parfois de l'épinard perpétuel. Tout se mange. Maintenant, le bouquet. Tout se mange dans la bête à carde. Ces grandes feuilles de 10 à 15 cm de largeur au goût très semblable à celui de l'épinard et ses cardes que l'on cuit à part, à la marguerite ou sautées à la poêle, comme les asperges, nous disent les livres de recettes. Sa générosité est fabuleuse puisque si vous procédez à la cueillette de ces feuilles sans affecter les nouvelles pousses centrales, elle produira tout l'été. La récolte pourra commencer dès que la plante atteint de 15 à 20 cm de hauteur pour obtenir un feuillage plus tendre afin de le servir en salade, notamment. Et si vous rasez le plant, disons à 3 ou 4 cm du sol, il produira des feuilles à nouveau. Colorez le potager. appelé blette ou poirée en Europe francophone, consommée dans la Grèce et la Rome ancienne, Cicéron a même avoué dans une lettre avoir eu une indigestion de blette. La bête à carde et sa propre cousine, la betterave, ont la même origine. La première ayant été sélectionnée pour le développement de ses feuilles et la seconde pour l'hypertrophie de sa racine. À une époque lointaine, elle entrait même dans une infinité de concoctions, autant pour contrer les maux d'estomac que pour éliminer les verrues ou même les poux. Pour leur part, les bêtes aux pétioles colorés ont pris leur essor, du moins chez nous. En 1998, avec l'apparition de Bright Lights, une variété dont les graines produisent des tiges de divers coloris. Ce cultivar unique a exigé une quinzaine d'années de travail d'hybridation du jardinier amateur néo-zélandais John Heaton avant sa mise en marché. Si Bright Lights est souvent utilisé dans les aménagements urbains à des fins décoratives, il existe aussi plusieurs autres variétés de couleurs. Elle déteste la compétition. La bête à carde exige 2 ans pour produire des graines bisannuelles, mais elle est cultivée comme plante annuelle comme la plupart des potagères. Peu exigeante, elle apprécie toutefois un sol riche en raison notamment de sa croissance continue. On peut la semer en pleine terre, en position ensoleillée à 2 cm de profondeur, dès que le sol atteint 10 degrés centigrades ou mieux encore autour de 16 degrés centigrades. Autre avantage, elle peut aussi se contenter d'un peu d'ombre. Il est possible aussi d'obtenir des plants en jardinerie ou encore de procéder à un semis intérieur de 5 à 6 semaines avant la période de transplantation prévue, chaque tige étant disposée à 15-25 cm les unes des autres. La bête à carde déteste les mauvaises herbes et un sarclage régulier s'imposera. Un gage de santé d'ailleurs pour tout le jardin. Comme bon nombre de plantes potagères, elle se plaira dans un terreau qui conserve une humidité constante et un arrosage régulier en période de canicule ou de sécheresse lui assurera une croissance optimale. Bon ménage avec la laitue. Évidemment, faire l'éloge de la bête à carde est susceptible d'indisposer les autres plantes qu'elle côtoie au jardin. À ce chapitre, il faudrait donner raison aux laitues. Elles n'ont peut-être pas le même panache, mais elles offrent également de beaux coloris variés, surtout dans des tons de vert, mais aussi dans plusieurs teintes de rouge ou de pourpre, notamment parmi les cultivars en feuilles. Bêtes et laitues font manifestement bon ménage pour illuminer le potager. C'était « Une bête belle à croquer », un texte de Pierre Gingras paru le 30 mars 2024 dans la presse.